Alors Spinoza vit dans des Pays-Bas qui sont calvinistes. Est-ce qu'il il s'est exprimé ou est-ce qu'on doit lire une, ou est-ce qu'on peut lire une critique contre la manière dont Calvin lui-même il avait dirigé la ville de Genève, par exemple, qui est un concentré de politique et de religieux, justement. Est-ce qu'il il s'est exprimé là-dessus? Est-ce qu'il
À ma connaissance, non. On trouve, en revanche, des citations blanches, pour reprendre cette expression inventée, des textes de Calvin. Donc il les connaissait.
Oui.
Mais il ne s'est pas exprimé sur Calvin lui-même. Ce sur quoi il s'exprime, c'est sur, il le dit dans ses lettres et puis ses amitiés le révèlent, la situation en Hollande. En gros, il y a les remontrants et les contre-remontrants en Hollande. Les remontrants, mettons, sont les modérés. Les contre-remontrants, les radicaux. Et en 1619, les radicaux l'emportent. Sur cette situation théologique, se superpose une situation politique. Il y a les orangistes, ceux qui sont favorables à la dynastie des oranges. Et puis, on a les frères de Witt, qui sont favorables aux modérés. Et donc, la superposition de la situation politique et de la situation religieuse fait qu'en quelque sorte, les positions sont assez simplement cristallisées. Alors, ces amitiés, quelles étaient-elles? C'était les modérés. C'était ce que Kolakowski a appelé les chrétiens sans église, c'est-à-dire des gens qui lisaient la Bible énormément et qui ne se retrouvaient pas dans l'institution ecclésiale, quelle qu'elle soit, les calvinistes, tel ou tel. Donc ils se réunissaient entre eux, et puis ils lisaient la Bible, et puis ils en faisaient source d'inspiration pour leur action, etc. Donc il y avait dans la Hollande du XVIIe un foisonnement de sectes religieuses, de tous ordres. Il y avait une très grande liberté religieuse qui était toujours menacée. C'était pour défendre cette liberté religieuse que Spinoza écrivait. Et donc effectivement, cette liberté religieuse appelait sa traduction politique. Il était très clair que les orangistes n'avaient aucun intérêt à la maintenir.
Je vais dire les noms juste avant, comme ça au moins on commence à se connaître. C'était Thibault Crémers et Jérémy Haddad.
Merci beaucoup. C'est très intéressant la période, ce que tu as appelé le moment heureux d'identité en fait entre la théocratie et la démocratie, entre le théologique et le politique au moment de Moïse. Je ne sais pas si Spinoza en fait une sorte d'idéal, mais si c'est le cas, quelque chose que je ne comprends pas très bien, parce que ça voudrait dire qu'il en fait une forme d'idéal dans lequel on garantit d'une certaine façon la liberté de penser tout en faisant en sorte que la population qui est soumise à une loi, qui est une forme de loi civile et religieuse, soit quelque part imposée à tous.
Alors, tu pointes à mon avis une difficulté. Quand Spinoza évoque cela, donc au chapitre 5, la question de la liberté de penser ne se pose pas.
Alors, je vais aller au bout de ma question. Si on veut concilier justement cette question de liberté de penser, est-ce que ça voudrait dire finalement que Spinoza est en train de prôner une forme d'orthopraxie, mais qui permet d'une certaine façon une liberté de penser absolue par ailleurs, du moment que on respecte la loi?
Alors, si je sors du cadre de la théocratie démocratique heureuse, en un sens, on n'est pas loin. Mais il faut s'entendre sur orthopraxie. Orthopraxie, si par praxis on entend simplement la pratique de la justice et de la charité, absolument. Pratiquons entre nous la justice et la charité, et ensuite on peut penser ce qu'on veut. Si par praxis on entend application des mitzvot, alors radicalement non. Puisque comme je l'ai indiqué, dès le chapitre 3, il soutient la thèse que les lois rabbiniques, enfin les lois de la halakha n'étant jamais que les lois positives de l'État, l'État disparu, les lois n'ont plus de légitimité. Sauf si, nous dit-il, il venait à Dieu l'idée de rendre favorables les conditions de restauration d'un État, et alors, pourrait s'appliquer à nouveau ces lois. Il a cette hypothèse. Mais il dit globalement l'indolence des Juifs, enfin bon, ils sont pas. C'est un passage assez difficile, on connaît les polémiques qui se sont ouvertes sur ce Odie Yudaï, aujourd'hui les Hébreux. Mais je vous lis ce passage juste pour le. Juste pour mémoire. C'est la toute fin, c'est le dernier paragraphe du chapitre 3. Enfin, je dis paragraphe, vous savez que le TTP comporte assez peu de paragraphes. Je cite, hein, j'estime que le signe de la circoncision, il pense que la seule chose qui est conservée les Juifs, ce sont au fond c'est le signe de la circoncision, une pratique. C'est pas du tout une croyance, une foi, etc. C'est comme la natte des Chinois, ça les a préservés tout au long de l'histoire. Eh bien, les Hébreux, par un geste concret, matériel, se sont préservés sans savoir pourquoi ils font ça. J'estime que le signe de la circoncision peut tant en cette matière aussi que je suis persuadé que lui seul conservera cette nation pour l'éternité. Alors, c'est, donc la sauvegarde éternelle du peuple juif n'est pas du tout remise à un miracle, à une élection divine ou quoi que ce soit. Simplement une pratique sociologique. Bien plus, si les fondements de leur religion n'efféminaient pas leur âme, je ne sais pas ce qu'il veut dire par là. Je ne sais pas ce qu'il entend par fondement de la religion, pourquoi ça efféminerait leur âme. Tout ce qu'il dit de la religion telle qu'elle est construite par Moïse n'a rien qui soit de nature à efféminer leur âme. Donc je ne comprends pas bien ce qu'il veut dire. Efféminer leur âme. Non, j'ai donné à l'âme. Je répétais le mot. C'est bien le problème. Non, mais je vais retrouver.
Si on lit une âme efféminée au regard de la dernière page du traité politique, c'est pas un cadeau.
La dernière page du traité politique est très sévère pour les dames. Attendez, je vais retrouver au moins l'expression latine. Voilà. En fait, j'ai pris le calque. Hein, j'ai pris le calque du latin. Immo et bien plus nisi fundamentas. Si les fondements de leur religion, erum animos, efféminarent animos, efféminer leur âme. Je ne sais pas ce qu'il veut dire par là. Alors, effectivement, on peut retourner à la dernière page du traité politique, mais je le fais juste après. Je termine juste ce passage. J'estime efféminer leur âme. Je croirai de façon absolue qu'un jour, quand l'occasion leur sera donnée, comme les choses humaines sont muables, ils rétabliront leur empire et Dieu les élira à nouveau. Qu'est-ce que c'est que l'élection pour Spinoza ? C'est pas du tout le fait que Dieu ait choisi un peuple qui va historiquement être détenteur de ses lois, etc. Pas du tout. C'est simplement le fait qu'il y ait des situations. Comme Dieu, c'est l'être, tout ce qui est. Être élu par Dieu, c'est simplement rencontrer dans l'histoire des conditions favorables à sa préservation. Quand les Hébreux sont sortis d'Égypte, ils ont fondé un État. Ils avaient très peu d'expérience politique. Cet État aurait dû disparaître, vu leur peu d'expérience politique, vu leur maladresse. Or, ils se sont trouvés dans des conditions historiques favorables à leur préservation. Ces conditions historiques favorables à leur préservation peuvent s'appeler assistance externe de Dieu. Il y aurait eu l'assistance interne si le peuple avait détenu en soi des ressources d'expérience suffisamment puissantes pour lui permettre de se sauver soi-même par soi-même. Mais il se trouve que il n'avait pas de ressources politiques puisqu'il n'avait pas d'expérience et surtout, il quittait 400 ans d'esclavage, etc. Donc, il n'a été sauvé que par les circonstances favorables extérieures. On peut appeler élection ces circonstances extérieures. Donc, les choses étant muables, on peut parfaitement trouver possible que les conditions soient favorables à ce qu'un jour, eh bien, l'État soit réédifié. L'État à nouveau édifié, les lois seront à nouveau légitimes et le peuple sera à nouveau élu. Donc on est élu historiquement. Ainsi avons-nous un exemple tout à fait clair de cela chez les Chinois, etc. etc. Et il termine en disant « Les Juifs n'ont donc rien de plus que les autres hommes. Leur loi n'est rien d'autre qu'une loi positive qui disparaît quand l'État disparaît. » Donc maintenant, dernière page du traité politique sur les femmes, qui peut en effet nous mettre sur la voie de ce que veut dire Spinoza par « efféminer les âmes ». Le traité politique est inachevé et il s'inachève sur la question démocratique. Spinoza traite à ce moment-là de la démocratie, des différents types de régimes. Je vous lis cette page et sans commentaire. Mais peut-être demandera-t-on si c'est par nature ou par institution que les femmes sont sous le pouvoir des hommes, car si c'est seulement le fait de l'institution, il n'y avait donc aucune raison pour nous forcer à exclure les femmes du gouvernement. Mais si nous consultons l'expérience elle-même, nous verrons que cela naît de leur faiblesse, car on n'a nulle part vu les femmes et les hommes gouverner ensemble, mais partout où se trouvent sur Terre des hommes et des femmes, nous voyons les hommes régner et les femmes être gouvernées, et nous constatons que de cette manière, les deux sexes vivent dans la concorde. Mais à l'inverse, les Amazones, qui d'après la tradition régnèrent jadis, ne souffraient pas que les hommes séjournassent sur le sol de leur patrie et n'élevaient que des filles. Les mâles qu'elles mettaient au monde, elles les tuaient. Si par nature les femmes étaient égales aux hommes et avaient en force d'âme et en génie, en quoi consiste au plus haut point la puissance et par conséquent le droit chez les humains, une puissance égale à la leur, il est sûr que parmi tant de nations si diverses, il s'en trouverait certaines où les deux sexes gouverneraient à égalité et d'autres où les hommes seraient gouvernés par les femmes et éduqués de telle sorte que leur génie ait moins de puissance. Comme cela n'a lieu nulle part, il est tout à fait permis d'affirmer que les femmes, par nature, n'ont pas un droit égal à celui des hommes, mais qu'elles sont nécessairement inférieures aux hommes, et par suite, qu'il ne se peut faire que les deux sexes gouvernent à égalité, et encore moins, que les hommes soient gouvernés par les femmes. En outre, si nous considérons les affects humains, à savoir que les hommes en général aiment les femmes sous l'effet du seul affect de lubricité, et évaluent leur génie et leur sagesse à la puissance de leur beauté, et en outre que les hommes supportent très mal que les femmes qu'ils aiment aient quelques faveurs pour d'autres, et autre chose de ce genre, nous n'aurons pas de mal à voir qu'il ne peut pas se faire sans grand dommage pour la paix que les hommes et les femmes gouvernent à égalité. Et il termine en disant « Mais assez là-dessus ». On est d'accord. En tout cas, voilà, voilà.
C'est très rassurant. Ça, très, très rassurant. Parce que ça montre que ce grand Spinoza, qui est quand même un penseur puissant, eh bien, a des préjugés, des superstitions.
Il fait surtout une faute de méthode. Parce qu'il tire le droit du fait. C'est-à-dire qu'à supposer qu'il ait raison et que dans l'expérience ne se soit jamais vu d'état dans lesquels les femmes règnent à égalité avec les hommes, ça ne dirait pas qu'en droit et que dans une expérience à venir, les femmes ne le puissent. Donc l'expérience n'a rien à nous apprendre quant à ce qui pourrait être expérimenté à l'avenir. Donc je trouve que c'est une faute logique, au-delà des préjugés naturellement que ça traduit. Mais ça nous dit pas beaucoup plus de ce qu'il veut dire quand il dit que les fondements de la loi juive efféminent l'âme. J'avoue que...
Ceci étant dit, d'un point de vue prophétique, c'est pas trop mauvais, parce que ceux qui ont réinstauré l'État, c'est précisément des gens qui avaient abandonné cette religion.
Alors attends, oui, tu sautes 2000 ans.
Non mais, ce qu'il a prophétisé en disant, ça pourrait le faire, le seul problème c'est qu'ils ont une religion qui les effémine. Bah, résultat, il y a des gens qui ont abandonné la religion, c'est précisément eux qui l'ont réinstauré. Voilà.
Confirmation.
Voilà.
Je voudrais juste intervenir, pas par rapport aux questions que nous nous posons habituellement dans ce séminaire, mais par rapport à votre intervention, qui me paraît extrêmement originale et qui dépoussière complètement ce qu'on peut savoir de Spinoza comme un penseur anti-juif, antisémite. Je trouve que votre intervention déjudaïse Spinoza et l'hébraïse très fort. Dans le sens, oui.
Oui, bah, oui et non, parce que, enfin, des relégitimations juives de Spinoza, il y en a eu quand même. J'en donnerai des exemples. Il y a dans Difficile Liberté deux articles de Lévinas sur Spinoza. Qui sont le premier d'une très grande sévérité et le deuxième d'une très grande intelligence de ce que Spinoza a essayé de faire, c'est-à-dire nous apprendre au fond que le message hébraïque et prophétique, c'est la justice et la charité. Et Lévinas ici relégitime Spinoza. À côté de moi, Catherine Chalier a aussi écrit des textes dans lesquels elle remontre la puissance juive. En fait, il est très difficile, mais peut-être que c'est lié à la nature des choses, de désidéologiser Spinoza. Peut-être parce qu'il s'est idéologisé lui-même. Il travaillait dans un climat qui était surdéterminé idéologiquement. Et par conséquent, il a été lu idéologiquement. On ne pouvait pas faire autrement parce que c'était la situation qui le voulait. Peut-être que le lire, tout simplement, suffit dans une certaine mesure pour le dépoussiérer. J'ai mis de l'ordre en faisant de la paraphrase.
C'est l'artiste qui dit...
Merci.
Ça, c'est un, disons, c'est une remarque générale. Concernant les questions que nous posons dans ce séminaire sur la politique, il y a un moment dans votre intervention qui me semble évidemment très important. C'est les deux questions du délitement du concept de théologico-politique avec donc ces deux temps que vous avez désignés, à savoir la demande d'un roi, hein, chez les Juifs, donc, hein. Et un autre point qui est vraiment un point d'actualité, la substitution du pouvoir religieux. La substitution entre pouvoir religieux et pouvoir politique à partir du moment où on a, où Dieu lui-même donc a décrété la déchéance des aînés, qui était justement ce moment démocratique que voulait Moïse d'ailleurs, hein. Il y a ce passage de Moïse où justement il veut que tout le monde soit prophète, hein. Alors donc, pardon,
il le cite.
Bon, ben voilà. Et donc, là, c'est ce moment-là donc, sur lequel on peut s'interroger par rapport à la situation actuelle, c'est-à-dire cette caste religieuse, ça, évaluer, disons, son pouvoir et, par rapport, et son articulation politique. Voilà. Ça, c'était ces deux points-là qui étaient qui m'ont semblé très importants dans votre intervention, dans votre lecture, votre interprétation, disons, de Spinoza. Et un troisième point concernant la position du prophète, parce que souvent le prophète, on le voit dans cette démocratie, enfin cette théologie démocratique ou cette démocratie religieuse, on le voit comme un élément régulateur du pouvoir, du conflictuel entre roi et pouvoir religieux. C'est un élément instable. Or, dans la lecture qu'en fait Spinoza, telle que vous nous l'avez annoncée, c'est plutôt un élément déstabilisateur qui viendrait en somme déstabiliser encore plus que la concurrence entre les deux pouvoirs.
C'est un élément du pouvoir religieux. C'est un élément du pouvoir religieux potentiellement déstabilisateur.
En fait, je crois que l'une des thèses qui sont à l'arrière-fond de la lecture que fait Spinoza de l'histoire des Hébreux, c'est que, mis à part Moïse, tel qu'il s'est révélé dans l'histoire, personne n'est à l'abri de son propre démon. C'est-à-dire que le prophète, qui est détenteur d'une autorité, d'une vertu divine, etc., même si c'est un vrai prophète, qui présente donc toutes les qualités morales du vrai prophète, parce que le prophète est un homme d'imagination, c'est un homme qui détient des signes de Dieu, et c'est un homme qui présente des qualités morales. Il a trois caractéristiques. Eh bien, le prophète peut aussi être un homme comme les autres, vecteur de déstabilisation. De la même façon, les pontifes qui gardent la loi peuvent aussi être facteurs de déstabilisation. Alors, les prophètes, c'est vrai qu'ils ont un rôle un petit peu problématique. Parce que d'un côté, ils ouvrent l'histoire juive, puisque Spinoza identifie la révélation avec la prophétie. Donc, tout s'inaugure par la parole prophétique, et en même temps, ils deviennent une pièce parmi les autres du dispositif théologico-politique. Ils ont, à ce moment-là, plus à voir avec le pouvoir religieux, théologique, que politique, naturellement, et ils peuvent effectivement servir de trouble-fête. Vous avez parfaitement raison. Et puis, il y a aussi l'ombre, en permanence évoquée dans le traité, du faux prophète. C'est-à-dire... de celui soit qui est suscité par le roi en mal d'une accréditation théologique et par conséquent qui est là pour lutter contre le vrai prophète, soit celui qui présente toutes les garanties du vrai prophète, mais alors, et là Spinoza se fie au texte de la Bible, la seule façon de savoir si c'est un vrai ou un faux prophète, c'est de vérifier si ce qu'il dit est conforme à la loi de Moïse telle qu'elle est déposée né variétour dans le Saint des Saints. Ça, c'est une deuxième, ça c'est une autre question. Voilà, alors maintenant, la question de l'hérédité, d'une caste héréditaire. Et j'ai un peu le sentiment que dans les deux effets, dans les deux éléments du délitement que j'ai invoqué, à savoir la royauté d'une part et la caste sacerdotale d'une autre, l'un des problèmes que pose Spinoza, sans le thématiser explicitement, c'est la question de l'hérédité. Il dit, tant que les rois étaient choisis tels qu'ils étaient, alors c'était un berger, c'est bon. Ils restaient ce qu'ils étaient quand ils arrivaient au pouvoir. Mais dès l'instant que ça se transmettait de père en fils, Alors on voulait accroître son pouvoir, on voulait s'en assurer. C'est la même chose pour la caste sacerdotale. C'est-à-dire que quand vous êtes premier-né, c'est un fait de hasard. Mais quand en revanche vous naissez d'une famille de prêtres, et que vous êtes prêtre en quelque sorte de père en fils, il y a un facteur d'hérédité qui pollue inévitablement la charge. Alors il y a ici une réflexion à avoir sur la question de l'hérédité. Dans le traité politique, il mènera cette réflexion en demandant que le pouvoir soit tournant, que personne ne le garde plus d'un certain nombre d'années. C'est important. Mais alors maintenant, la question, la façon dont on pourrait moderniser le problème, c'est-à-dire les coordonnées contemporaines de la question que vous posez, je m'abstiens de tout commentaire, faute d'ailleurs d'avoir suffisamment réfléchi. C'est-à-dire que, est-ce que dans la question théologico-politique telle qu'elle se pose aujourd'hui, la question de la transmission de père en fils d'un pouvoir théologique se pose? Je ne sais pas, il faudrait faire ici un examen de la chose.
Ouais. David Lemaire, dont je suis d'ailleurs très heureux qu'il nous rejoigne.
Alors, j'avais deux points. Le premier, c'est que j'ai été très frappé par ce que tu as dit sur la citation blanche de Tacite dans la préface. Ça m'a fait penser aux lectures ésotériques du TTP, qui vont souvent dans le sens plutôt de voir dans le fait de s'en prendre à l'Ancien Testament, aux Hébreux, etc., quelque chose comme une manière de ne pas s'adresser aux vrais adversaires qui seraient les chrétiens. Je pense à la lecture de Strauss, ou plus récemment la lecture de Milner, qui va lire dans le TTP un art d'écrire qui viserait à cacher une thèse radicalement anti-juive. Je me demandais si toi, tu avais, à la lumière de ton expérience de la traduction du texte, une idée sur cet art d'écrire. Je ne sais pas si cette citation blanche était un exemple. Ou...
Alors, je réponds tout de suite à cette question. Je vais élargir à d'autres questions de l'histoire de la philosophie, parce que la question que tu poses est une question de l'histoire de la philosophie. Comme chacun sait, tu le rappelles, Léo Strauss défendait l'idée qu'un texte peut se lire à deux niveaux. Au niveau exotérique, on lit ce qu'il dit, et puis, d'autre part, au niveau ésotérique, on lit ce qu'il ne dit pas, parce que le rédacteur du texte est écrit en situation de persécution, parce que par conséquent, il ne peut pas tout dire, et par conséquent, il est obligé de crypter le message. Au lecteur, à l'interprète, de décrypter, et donc de lire entre les lignes, de lire les silences, etc. Par conséquent, il nous appartient, et Léo Strauss l'a fait pour pas mal d'auteurs, de lire le message ésotérique. D'ailleurs, parfois, comme inversant, le message exotérique explicite. Le texte que tu rappelles, c'est le texte de Jean-Claude Milner qui s'autorise, dans son petit livre sur Spinoza qui s'appelle « Le sage trompeur », une lecture straussienne, dit-il, de Spinoza, c'est-à-dire qu'il surinterprète tous les silences, toutes les erreurs, etc. Bon. Alors, moi, j'ai juste deux remarques à faire et je ne sais pas si elles font système. La première remarque, c'est que la méthode straussienne, d'une façon générale, me paraît assez incontrôlable en définitive. C'est-à-dire que très souvent, on ne sait pas jusqu'où peut aller l'interprétation, y compris quand elle va contre le sens explicite. Je suis un peu gêné par l'abondance des lectures straussiennes qui ne me paraissent pas assez contrôlées par la lettre du texte. Et quand elles ne sont pas assez contrôlées par la lettre du texte, elles nous répondent « on ne peut pas l'être précisément parce que la lettre du texte est exotérique et que donc la lettre du texte ne peut pas confirmer ce que nous disons, puisque si elle le pouvait, elle ne serait pas précisément ésotérique. » Donc je trouve que la méthode straussienne est un petit peu incontrôlable. Donc je la ferai pas mienne. Deuxième remarque, et ça c'est d'une façon générale une pratique d'histoire de la philosophie, moi je viens du cartésianisme, de l'étude de Descartes, je dirais, pour faire de l'histoire de la philosophie, plus on est savant, alors là c'est pas moi qui suis savant, cette référence à Tacite elle a été repérée par d'autres éditions avant moi, plus on est savant, mieux c'est, et à partir de là, toutes les interprétations sont possibles et ouvertes. On peut pas oublier ici, on peut pas faire comme si c'était pas une citation de Tacite quand on sait que c'est une citation de Tacite. On peut même beaucoup mieux voir l'adversaire, etc. etc. Ça ne veut pas dire que on construit une herméneutique straussienne qui articule deux niveaux de lecture, ésotérique et exotérique. Si tu prends un texte, je ne sais pas moi, de Bergson, dans lequel il y a une citation qu'on arrive à assigner et qui est à Descartes ou à Aristote, on peut parfaitement, l'historien de la philosophie est apte à dire, c'est une discussion avec Descartes ou Aristote, même si on n'articule pas un niveau ésotérique et exotérique. Et même si, on n'arrive pas à montrer par la biographie de l'auteur qu'il avait lu Descartes ou Aristote. La question n'est pas là. C'est-à-dire que le repérage d'une citation blanche peut offrir matière à une interprétation, voire une surinterprétation, qui n'a pas besoin de toute la construction straussienne, en quelque sorte. Ça, c'était la première question.
Je vais revenir à cette question de...
Merci beaucoup.
Peut-être une hypothèse sur ce point-là, qui concerne la question du rapport entre le politique et l'État. Tu as dit que, donc un terme central dans le TTP, c'était « imperium ». Et tu as dit que, souvent c'était traduit par État, tu as dit on aurait pu traduire par État, moi j'ai traduit par Empire. Est-ce que précisément, pour ce qui concerne la question de ce séminaire, il n'y aura pas quelque chose justement de central à réfléchir autour de quelque chose qui pourrait être un point aveugle du TTP et qui est la possibilité qu'il y ait une forme politique qui existe indépendamment de la forme étatique et que par conséquent, il pourrait y avoir une politique juive en exil. Voilà. Donc cette question de l'effémination de l'âme serait liée à ça, c'est-à-dire que leur religion effémine leur âme parce qu'elle les maintient dans une forme d'impuissance, en fait, puisqu'ils sont en exil et qu'ils s'y complaisent. Après, je rejoins la remarque de Jérémy tout à l'heure, que finalement... Effectivement, la reconstruction de l'État, elle se fait sous la forme d'une résolution, d'une sortie de la religion. C'est-à-dire le sionisme se constitue comme moyen de maintenir une forme d'unité politique lorsque on a abandonné ou que la forme religieuse, justement, est devenue...
C'est paradoxal qu'ensuite, dans cet État reconstruit, ce soit à nouveau la loi religieuse, ce soit la loi civile. C'est-à-dire que les conditions de possibilité de l'État contrediraient l'exercice de la loi qui s'y déjouera.
Oui, mais je veux dire, pour revenir à cette question de la femme et l'homme, la citation que tu donnais du traité politique confirme cette idée, c'est que finalement, le féminin, ce serait quelque chose qui n'est pas à même d'exercer le pouvoir au sens du pouvoir institutionnel, du pouvoir étatique.
Oui, mais...
Sans souveraineté, ce serait ça le féminin.
Oui, mais c'est en exil. Non, mais j'entends bien. Mais le problème, c'est que l'expression que j'ai dit, c'est fondamentalement la religion, les fondements de la religion, c'est une série de lois qui avaient sens immédiatement politique. Cette lecture est incompatible avec l'hypothèse que tu fais.
Sauf si on dit que les fondements de la religion, c'est justement le fait de continuer à exister malgré la séparation de l'État. Je ne sais pas si l'entend.
Oui, mais c'est ça le problème du concept de fondement. Le problème du concept de fondement ici, c'est que il est très peu déterminé, il est beaucoup utilisé dans le traité. Spinoza appelle fondement un très grand nombre de choses. Il n'a pas du tout d'usage réglé du concept de fondement. Normalement, un fondement, c'est ce qui est en dessous et qui tient l'édifice. Ça suppose une architectonique, c'est pas du tout le cas chez Spinoza d'une façon générale. Donc ici, fondamenta religionis, moi j'y vois plutôt, s'agissant du judaïsme, une religion civile, une religion d'État. Par conséquent, si les fondements du judaïsme sont une religion d'État, sont politiques, je ne vois pas comment on peut les rapprocher d'une féminité impuissante. Bon, maintenant, je reviens sur la question du pouvoir. Deux petites remarques. Ma difficulté, alors là, c'est vraiment une expérience de traducteur que je rapporte ici, c'est que le mot latin « imperium » veut dire « pouvoir », mais dans tous les sens du terme. C'est-à-dire, avoir du pouvoir sur quelque chose, c'est « imperium ». L'État politique, c'est « imperium ». Donc, le pouvoir, à toutes les échelles, même l'État comme portion géographique déterminée par des frontières, c'est un imperium. Et donc, les traducteurs choisissent, suivant le contexte, de traduire par « État », par « le règne du roi », « le règne », « imperium », c'est aussi un pouvoir. Le problème, c'est que Spinoza, quand il utilise le même mot, et le traducteur a une responsabilité trop grande quand il choisit, lui, de déterminer le mot latin par un mot français précis, exclusif de tous les autres. Je trouve que c'est une responsabilité exorbitante de décider qu'ici, « imperium » va signifier « État », là, ça va signifier « règne », là, « territoire », etc. Donc, j'ai cherché très longtemps. Le problème se complique en plus du fait qu'il utilise parfois le mot « imperare », « commander ». Or, « imperare », vous l'entendez, ça vient de « imperium ». Alors, je ne savais pas comment faire. J'ai choisi, en définitive, de garder le mot « empire ». Parce que je me suis dit, dans la langue classique au XVIIe siècle, on dit bien « avoir l'empire sur quelque chose ». Donc, c'est « avoir un pouvoir ». L'empire, ça désigne aussi un état territorial, même si aujourd'hui on l'associe à l'idée d'une métropole et ses colonies. Mais enfin, un empire, c'est d'abord un état territorial. Donc j'ai gardé empire, et pour imperare, j'ai mis exercer l'empire. Ce qui est une légère surtraduction. Mais ça permettait de voir que Spinoza utilisait le mot empire à de nombreuses reprises. Donc voilà pour la question de l'empire. Maintenant, la question que tu poses sur la détermination du lieu du politique, elle me paraît tout à fait fondamentale. C'est-à-dire que si on prend une synagogue, je quitte Spinoza, si on prend une synagogue, le rabbin a le pouvoir religieux, théologique, les administrateurs ont le pouvoir politique, à toute rigueur de terme. De plus en plus, ça s'inverse. On voit des rabbins parler de religion et les administrateurs, on voit des rabbins parler de politique et les administrateurs, ils vous font des livrets Torah. Mais je passe sur cette affaire. Ça, c'est la synagogue. Mais prise à l'échelle de l'État, la synagogue tout entière, c'est du religieux confronté à du politique, qui serait le pouvoir politique, les ministres, les trois pouvoirs, enfin ce qu'on voudra. Donc j'ai l'impression, à mon avis, tu mets le doigt sur une question très fondamentale, j'ai l'impression que le politique est un peu partout, pas toujours dans des formes institutionnellement politiques. C'est-à-dire qu'il y a du politique dans la gestion matérielle d'un lieu de culte qui sera lui-même vu comme religieux un échelon supérieur quand il sera confronté à du politique institutionnel et d'une autre nature. Donc la question de la survie politique des Juifs et la question de savoir où est le politique dans une communauté, quelle qu'elle soit, elle est extrêmement complexe, me semble-t-il. C'est-à-dire que le politique est irréductible à de l'institutionnellement politique. Il se traque toujours et un peu partout. C'est pourquoi, je disais tout à l'heure, l'excommunication, elle est prise par les parnassimes, c'est-à-dire par les administrateurs, etc. N'empêche que, du point de vue des États de Hollande et du point de vue du pouvoir d'Amsterdam, c'est quand même la synagogue. Donc on peut dire que cette excommunication est religieuse au sens où c'est une sortie de Spinoza de la synagogue, de l'espace configuré par la religion, mais on peut dire aussi qu'au sein de cet espace, cette exclusion est politique et pas rabbinique. C'est extrêmement difficile à articuler et je crois qu'on est quitte pour avoir au moins posé le problème, provisoirement mettons.
Attends.
Merci. Alors, Daniel Semama, je ne suis absolument pas légitime du tout pour formuler des questions ici parce que je n'ai pas de connaissances réelles sur Spinoza. Je m'intéresse à beaucoup de toutes les personnes que je reconnais dans les conférences que j'écoute, et notamment Dan Arbib aussi, qui m'a ouvert un petit peu Lévinas avec Sophie Nordman, et j'en suis ravie et je suis très heureuse de le rencontrer. Et je vous remercie à nouveau aujourd'hui. J'ai lu, parce que je travaillais sur la phrase « le peuple du livre », j'ai lu un bouquin de Bruno Carsanti sur l'interprétation du Moïse de Freud. Et il y avait un lien que je trouvais très intéressant, justement entre l'homme Moïse, tel que l'évoque Spinoza, cette hétéronomie, cette légitimité extérieure que finalement le peuple reconnaît pour se fonder comme peuple. Ce sont les Hébreux, on ne parle pas de Juifs, c'est vraiment les Hébreux. Il a l'air de parler d'un Moïse qui est effectivement le fondateur de ce peuple-là, avec cette transmission de l'autorité extérieure, des lois qui passent par lui, et lui les révèle finalement au peuple qui se fédère. J'ai deux choses par rapport à ça. Donc, est-ce que effectivement Spinoza considère cet homme Moïse comme existant, ayant existé, et finalement le considère comme un remarquable fédérateur d'êtres humains, et finalement d'arriver par la réalisation d'un certain nombre de lois qui n'étaient pas de pratique à l'époque dans cette région, avec tout le paganisme qu'il y avait autour, finalement d'apporter justice, charité, respect de l'être humain qui n'était pas de rigueur habituellement, et finalement d'arriver à construire ce que nous utilisons encore de nos jours dans ce qu'on appelle le code Napoléon, mais qui au fond a toujours les traces de ces choses essentielles qui étaient dites initialement. Alors comment il se positionne par rapport à cette autorité extérieure, puisque lui, de ce dont j'ai l'impression, dans ce que j'ai pu lire ou écouter, il s'agit d'un dieu nature qui n'aurait pas de légitimité ou qui ne pourrait pas s'exprimer même par l'intermédiaire d'un autre homme comme Moïse au peuple hébraïque. Qu'est-ce qu'il pense de cette entité extérieure ou de ce qu'il appelle la nature, et pourquoi tout d'un coup parlerait-il dans son TPP, pourquoi il parlerait de cette entité qui s'exprime à Moïse et qui, alors qu'au fond il n'y a pas ce rapport-là?
Alors, la question que vous posez me paraît fondamentale. C'est-à-dire que l'éthique nous a montré un dieu qui était une substance cause de soi, en fait toute la nature.
Les mots paraissent impressionnants parce qu'ils sont surdéterminés philosophiquement, mais ils signifient des choses tout à fait banales. Toute la nature, tout le réel n'est qu'une seule substance, il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien à aller chercher ailleurs. Et comme elle est la nature seule et qu'elle s'autoproduit, vous voyez bien qu'en permanence, des formes de la nature surgissent, nos mouvements, nos paroles, tout ce que nous faisons, il n'y a que pure immanence et elle est substance. On appellera substance une chose qui s'autoproduit et qui est seule. Donc voilà ce que veut dire Spinoza. Cette substance, naturellement, ne parle pas. Et dans l'éthique, tout l'intérêt, c'est de construire un concept de Dieu auquel on ne doit ni prier, ni s'adresser, qui ne nous dit rien et qui ne nous promet rien. C'est l'être même, sans transcendance. Dans le TTP, on entre immédiatement dans l'idée que la prophétie, c'est celui qui a une connaissance révélée par Dieu, que Dieu nous parle, etc. etc. Alors, il y a une contradiction, au moins littérale, entre ces deux textes. Mon avis sur la question, je vous donne mon avis sur la question, et je ne préjuge pas qu'on ne puisse en avoir d'autres. C'est que, réglant une question précise, ou plutôt trois questions précises, celles qu'il invoque dans la lettre 30 que j'ai lue au début de l'exposé, à savoir philosopher, se justifier et liberté de penser, Spinoza a un adversaire, qui est l'homme qui lit la Bible et qui s'autorise de la Bible pour construire un système théologico-politique délétère pour la philosophie, pour lui et pour la liberté. Par conséquent, il parle dans le langage de l'adversaire. et il présuppose, il s'installe dans la vérité de la Bible. Alors, il s'installe dans la vérité de la Bible, ça ne veut pas dire qu'il tient la Bible pour objet anhistorique révélé de toute éternité. Parce que ici, alors, le TTP retrouve l'éthique quand Spinoza dit « La Bible n'est jamais qu'un objet historique comme les autres, qui demande donc un examen historique. » Et là-dessus, effectivement, l'arrière-fond freudien pourra s'y retrouver. À savoir, la Bible est un texte qui a été transmis. Donc, il faut se demander dans quelle langue, dans quelles conditions, par qui, quel manuscrit avons-nous ? Et toutes ces questions vont être traitées. Il va se poser des questions considérables sur les petits espaces entre les mots, sur les voyelles, les consonnes, à quel moment ils ont été introduits, pourquoi les voyelles et les consonnes introduites au Xe ou XIe siècle ont telle force de loi, enfin les voyelles, pardon, ont telle force de loi, alors qu'en vérité, ça pourrait parfaitement venir d'une tradition qui n'est pas sûre. Quels sont les manuscrits qui nous ont été donnés ? Pourquoi a-t-on plusieurs variantes ? Donc ces questions de philologie vont l'occuper beaucoup. Mais tout ça part du principe qu'il faut présupposer quand même que la Bible nous dit ce dans quoi nous voulons croire quand nous parlons la langue de celui à qui nous nous adressons. Donc ça, c'est la première question. La deuxième question, qui est celle de savoir, je le retraduis dans les termes qui sont miens et vous me corrigez si je me trompe. Si Spinoza prête au peuple hébreu un rôle dans l'histoire de l'humanité qui aurait consisté à donner soit le monothéisme aux hommes, soit un certain nombre de lois qui sont maintenant intangibles, alors qu'elles ne l'étaient pas à l'époque. Je ne crois pas. Justement pour les raisons que j'ai dites, à savoir que tout s'historicise. La nature ne crée pas de nation. Que sont les Hébreux ? Au fond, un peuple qui s'est retrouvé là, qui partageant la même histoire, s'est retrouvé dans une même configuration et a dû affronter les mêmes péripéties. Par conséquent, ils ont écrit des textes, etc., etc. D'autre part, et c'est là encore que le TTP pourrait rejoindre l'éthique construit l'homme, enfin une vision de l'homme, comme simplement un mode de la nature, c'est-à-dire, puisque tout est Dieu, nous sommes en Dieu, nous sommes comme un pli dans une nappe, si vous voulez. Nous sommes un repli d'être dans la nappe générale de l'être. Bon, eh bien, les Hébreux ne divergent pas dans leur comportement de tous les autres modes. Et Spinoza critique beaucoup l'idée qu'on puisse penser qu'il existe un empire dans un empire. Alors, l'humanisme, j'emploie un mot qui n'a pas cours à ce moment-là, mais l'humanisme nous fait croire que l'homme, dans la nature, est une singularité, a une spécificité. Eh bien, Spinoza nous dit l'homme fonctionne exactement comme ce verre d'eau, comme cette bouteille. Les passions humaines se déduisent des unes des autres comme la courbe de chute de ce vertige de la chute. Donc, l'homme n'est pas un empire dans un empire. Et parmi les hommes, il n'y a pas d'homme propre à se croire singulier et particulier par rapport aux autres. Les Hébreux sont un peuple qui obéit aux lois de la nature et de l'histoire, comme tous les autres peuples.
Justement, voilà. Justement, je me permets de... Est-ce qu'on peut pas dire...
Pascal Baquet.
On peut pas dire que, en définitive...
Il y a un extraordinaire silence et une extraordinaire esquive de la part de Spinoza, d'un continent gigantesque qu'il semble, par dynamique des fluides, vider puis remplir, qui serait, sauf mon respect pour le titre de séminaire, précisément une anti-politique juive. Et une anti-politique juive qui a des couches... j'ai en tête trois éléments textuels mais qui valent le coup d'être rappelés. D'abord, il y a ce récit extraordinaire du dialogue entre Moshe et le personnage de Korach qui je trouve présente énormément de traits de semblance avec Spinoza, parce que précisément ce qui se produit quand Korach intervient et qu'il dit enfin toute l'assemblée est sainte. On est exactement dans ta démocratie théocratique. Toute l'assemblée est sainte, Botocham Hashem, et en leur saint est Dieu. Cette proposition, qui est d'abord une proposition outrancière de la part de Korach, puisque de fait, elle fait valoir une réalité en acte quand il n'y a en vérité qu'une injonction. Précisément, la réponse que Moïse va faire, c'est que quand il demande à Korach et à son assemblée de venir avec des encensoirs, précisément, la réponse de Moïse, c'est dire « Et Dieu fera savoir qui est le saint. » Et précisément, tu viens de dire que chez Spinoza, il n'y a absolument pas de pensée du singulier. C'est absolument congruent avec cet énoncé. À savoir que on pourrait se demander s'il n'y a pas chez Moïse qu'une pensée du singulier. Et que cette pensée du singulier doit nécessairement subsumer tout discours politique. Et autre proposition, cette fois à l'époque rabbinique, Altit Vadal Arashut, Hevuzrein Barashut, ne vous faites pas connaître du pouvoir, méfiez-vous du pouvoir. Il n'est pas. Alors on dira, oui, mais c'est un rabbinisme déjà, si ce n'est exilique, déjà souffrant, etc. Mais là-dessus, il y a un problème de définition absolument monstrueux qui se pose. C'est que ce rabbinisme qui s'exprime ici, est-ce qu'il exprime un état pathologique, névrotique du judaïsme? Ou est-ce qu'il exprime la vérité du judaïsme? Et qui serait donc une vérité antipolitique. Parce que, c'est le troisième élément textuel que je voudrais citer, c'est celui de Maïmonide dans le Guide des Égarés, qui décrit les quatre perfections humaines et leur gradation. Quatre perfections dont seule la quatrième est antéléchique, dont seule la quatrième produit une véritable advenue de la forme humaine. Et précisément, les perfections sont la perfection corporelle, la perfection éthique, la perfection politique, qui est la troisième, qui sont donc qui ne sont jamais que des matières pour une forme qui se réalise où ? Dans la perfection intellectuelle. Si bien, alors évidemment, c'est assez de l'Aristote, mais c'est dire que évidemment, Spinoza a pour adversaire essentiel Maïmonide. Mais de fait, ce qui est extraordinaire, je trouve, ce qui est extraordinairement impressionnant dans le geste de Spinoza, c'est cette façon de remplir l'espace du récit biblique, de le saturer de son arraisonnement par le politique, quand au contraire, toutes les époques successives du judaïsme ont fait valoir une pensée du singulier, c'est-à-dire une pensée d'une désaliénation aux politiques. Et que là, il y aurait un silence d'une mauvaise foi stupéfiante de la part de Spinoza à l'égard de ce qu'il ne peut pas ne pas avoir su et ne peut pas ne pas avoir pensé. Voilà ma question.
Vous pouvez manger entre-temps.
Je vais répondre à deux niveaux.
Personnellement, je t'accorde tout. Et je suis d'accord avec tout ce que tu viens de dire. Maintenant, si je reviens à Spinoza. Chapitre 3 du traité théologico-politique. Tout ce que nous désirons de façon honnête se rapporte principalement à ces trois choses, à savoir comprendre les choses par leur première cause, dominer ses passions, acquérir l'habitude de la vertu, donc, et enfin vivre en sécurité et avec un corps sain. Il nous dit la chose suivante. L'intellect, il appartient à chacun de perfectionner le sien. Moment antipolitique, non politique. Deuxième chose, dominer ses passions, il appartient à chacun d'y travailler. Sur ces deux points, d'ailleurs, l'éthique, qui n'est pas un traité politique, il y a des petits passages à la fin du livre, de la quatrième partie, mais ce n'est pas un traité politique, satisfait. En revanche, vivre en sécurité avec un corps sain suppose une gestion des corps, le mien, celui de l'autre, celui de chacun des autres, la nature, les bêtes féroces, il en parle un peu, et donc exige une théorisation politique. Et c'est sur ce point qu'on ne peut pas rester à du non-politique. voilà, c'est en termes spinozistes. C'est-à-dire que il t'accorde, je pense qu'il serait d'accord avec toi. D'ailleurs, le sage de l'éthique n'a pas besoin de politique. Il en a besoin qu'à une seule condition. Enfin, que pour une seule circonstance. C'est celle de savoir comment il gère ses rapprochements avec autrui. Comment il s'insère dans la négociation des corps. L'État, pour Spinoza, a une fonction minimale. Gérer des corps, faire en sorte que chacun soit en sécurité. L'État n'a pas à nous dire ce qui est bon, ce qui est mauvais, etc. Ce serait une usurpation de pouvoir. L'État doit assurer simplement notre sécurité. Et d'ailleurs, quand il n'assure plus notre sécurité, eh bien, nous lui retirons notre confiance. Et quand on lui retire notre confiance, ça porte un nom, ça s'appelle la révolution. Et la révolution est légitime parce que l'État n'était jamais que l'agglomération de nos forces. Dès l'instant que chacun retire la sienne, l'État se dissout et nous fabriquons un autre État qui soit plus propre à assurer notre sécurité. Donc c'est le seul point. Donc Spinoza serait d'accord avec toi. Le sage, sur son plan et non politique, il travaille à dominer ses passions et à connaître. Mais sur le plan de son corps, il a besoin d'une politique.
Oui, bien sûr, mais c'est à la condition de la traduction des lois en loi politique. C'est à la condition de la traduction des mitzvot en loi politique. Si bien que les mitzvot ne sont soudain tout, il y a un rapt ici.
Absolument, mais ce rapt, il est fait dans le chapitre 3, parce qu'il nous dit, ce chapitre s'appelle de la vocation des Hébreux, de l'élection des Hébreux. Ça porte sur l'élection d'Israël. Et il dit, l'intellect, puisqu'il appartient à chacun de le parfaire, il n'appartient à aucun peuple en particulier d'avoir été élu pour en avoir un supérieur. La domination sur ses passions, il revient à chacun d'y travailler, et par conséquent, aucun peuple... Bon. Donc, si élection il y a, et élection il y a, puisque la Bible nous le dit, elle doit porter sur la sécurité des corps. D'où ce que je disais tout à l'heure, en quoi consiste l'élection d'Israël ? Dans la sécurité des corps. Ce peuple aurait dû être déjà détruit. Ces corps auraient déjà dû être grignotés par tous les modes extérieurs, toute l'adversité qu'il a rencontrée. Or, il a réussi à survivre parce qu'il a rencontré finalement des circonstances favorables. C'est tout.
Mais il me semble que...
Mais c'est un rapt, hein, je suis...
Oui, mais on peut dire qu'il y a là, du coup, comme une espèce d'antithèse radicale de la pensée rabbinique, depuis le Talmud jusqu'au Rishonim, qui sera au contraire... Toute pensée des mitzvot, dès l'instant où elle devient une pensée politique, devient persécutrice et devient une trahison de la vocation, intellective, prophétique et subjectivante des mitzvot. Voilà.
Mais la trahison, elle est séminale dans le fait simplement qu'ils disent l'élection n'est pas spirituelle, mais elle est le concept qui désigne une réalité purement temporelle. La trahison, séminalement, se trouve là. Et tout s'ensuit.
Samuel. Samuel Benchet.
Il semble qu'au chapitre que vous avez cité, Spinoza dresse une généalogie du lien théologique au politique dans la Bible hébraïque et pense l'impérium de Moïse, donc l'état de Moïse, comme un âge d'or, une heureuse parenthèse. Est-ce que Spinoza parle également de la souveraineté de David, qui est un souverain d'exception dans les sources talmudiques, puisqu'il est le seul souverain autorisé à juger autrui, et à ce titre initiateur d'une lignée héréditaire, et donc et qui est plus tard repris par des auteurs comme Mendelssohn, qui met justement le souverain David comme le roi autorisé, l'âge d'or véritablement est l'âge du règne de David. Et si Spinoza ne le fait pas, comment comprendre cette omission?
Je ne sais pas. En tout cas, à ma connaissance, dans mon souvenir, il n'y a pas d'analyse de la situation de David comme chef singulier.
Pas que je me souvienne. Comment interpréter cette omission? Alors, est-ce qu'on peut l'interpréter fortement ou faiblement? Je ne sais pas. Très honnêtement, pour pouvoir faire une interprétation forte, il faudrait montrer que cette omission est exceptionnelle. Or, il a omis un tas d'autres choses. Il a beaucoup lu la Bible, qu'il lisait en hébreu et en traduction latine. Il a beaucoup pratiqué. Il a relevé dans la Bible les éléments qui allaient dans le sens de sa démonstration. Maintenant, je veux dire, on peut lui objecter beaucoup de choses, dont peut-être la figure de David. Mais je ferai une recherche, si vous voulez, des occurrences du mot David, et je vous dirai si Spinoza en tire quelque chose. Enfin, je le ferai, je pourrais vous écrire, mais là, je ne vois rien qui soit de nature à changer son analyse. Voilà, par exemple, il se sert de David pour montrer que quand on applique la loi de l'État, on applique aussi la loi religieuse, l'identité entre la loi religieuse et la loi de l'État. Et donc, il dit... Le seul fait d'aller habiter quelque part hors de la patrie était tenu pour une infamie, parce que pratiquer le culte de Dieu auquel ils étaient toujours tenus ne leur était accordé que dans la patrie, étant donné qu'elle seule était tenue pour une terre sainte et toutes les autres pour immondes et profanes. De ce fait, David, parce qu'il était contraint de s'exiler, se plaint vivement devant Saül en ces termes : si ceux qui t'excitent contre moi sont des hommes, ils sont maudits, parce qu'ils m'excluent pour que je ne m'avance pas sur l'héritage de Dieu, mais disent « Va et rends un culte au Dieu étranger ». Autrement dit, quitter sa patrie, c'est automatiquement rendre un culte au Dieu étranger, puisque la loi juive ne peut s'appliquer que dans la patrie. Voilà le type d'usage qu'il fait de la référence à Moïse. Elle est accidentelle et d'exemple. Elle a pas, je ne crois pas qu'il ait analysé le personnage, mais je regarderai mieux si vous voulez. Pas que je me souvienne. J'exclus pas qu'il le fasse, hein. Mais vous me prenez de court parce que j'ai pas ça en tête.
Alors, je voudrais livrer deux intuitions, suggestions aussi imprécises qu'imprudentes, pour voir si elles vous paraissent propres à prolonger cette réflexion. La première, c'est celle de savoir si les deux temps qui sont marqués par la césure dans le chapitre que vous avez proposé peuvent être éclairés par la comparaison avec l'idée que être libre, c'est d'abord être d'une cité libre et que ce qui pousse les hommes à défendre leur cité libre, va ensuite les pousser à être le plus libre possible, jusqu'au point où ils seront en désaccord sur la manière de défendre leur cité. Est-ce qu'il y aurait, dans l'aventure des Hébreux telle qu'elle est reprise dans Spinoza, des éléments qui divergent de ce modèle, et notamment le fait que les Hébreux ne vivent pas dans la crainte que par la réduction de leur cité, ils en viennent à perdre leur liberté, et donc dans l'espoir que, sacrifiant un peu de leur liberté, ils en viennent à assurer l'avenir de leur cité, puisque précisément, ils partent du point, ils deviennent un peuple à partir d'une situation où ils n'ont pas de liberté, et ils acquièrent leur liberté en situation d'être pas dans une cité, mais dans un espèce de situation sans empire extérieur, pour le dire comme vous l'avez dit. Et la deuxième, c'est celle de savoir si les coordonnées de l'existence de Moïse, et notamment la situation dans laquelle il est par rapport au grand empire du moment, dont il vient tout en reconnaissant les Hébreux comme ses frères, ont quelque chose à voir avec ce qui lui permet d'être cette figure unique qui réalise le moment parfait de très grande harmonie entre le théologique et le politique, puisqu'il est l'héritier, sans être l'héritier de quelque chose de politique qui est la plus grande chose politique du moment, et en même temps il reconnaît comme ses frères des Hébreux. Il est à la fois de très haute naissance et abandonné. Bref, y aurait-il dans les coordonnées de son existence quelque chose qui le prédispose, enfin qui le prédispose, peu importe, mais qui fait écho à la à ce que vous avez dit quant au fait qu'il est celui qui a, le seul qui a réalisé cette harmonie.
C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu d'autre Moïse que Moïse. Donc Moïse est effectivement quelqu'un de tout à fait singulier. Mais après tout, je rejoins la question de Pascal tout à l'heure, dans la nature spinoziste, il n'y a que des choses singulières aussi. Donc, c'est-à-dire que tout est le même que tout. Il n'y a pas de dérogation à l'universalité des lois. Mais ce qui se prête à cette universalité, ce sont des choses singulières à chaque fois. Donc Moïse était un singulier. Il avait ceci de particulier que la vertu divine qui était la sienne, était très haute, éminente, etc. Mais il ne fait pas l'analyse que tu fais, à savoir, Moïse était dans une position de Janus, entre un état politique extrême, supérieurement politique, qui était l'Égypte de l'époque, et puis la situation soit théologique à venir de l'élection, soit la reconnaissance de ses frères, etc. Moi, je pense que l'analyse que tu fais est très juste et très belle. En tout cas, il ne la fait pas explicitement. S'agissant de la première question, à savoir la question de la liberté des Hébreux. Alors, je ne sais pas si je t'ai parfaitement compris. Ce que je peux simplement dire, c'est que, très étrangement, dans l'analyse qu'il fait de l'histoire des Hébreux, le concept de liberté apparaît peu ou pas. D'abord parce que, quand il en parle au chapitre 3, au chapitre 5, la question de la liberté n'est pas son problème. Et quand il parle de la liberté, dans la deuxième séquence du TTP, c'est-à-dire les chapitres 16-20, la liberté arrive à la toute fin, en fait, au chapitre 20. Qu'est-ce qu'il montre, en somme? Il montre que l'État, c'est l'agglomération des puissances des individus. Et que si l'État, en définitive, ne laisse pas aux individus une liberté suffisante, celle dont ils ont besoin, il risque de retirer à l'État la puissance qu'ils lui ont confiée. Alors, quand vous avez un, deux, trois types qui retire à l'État la puissance qu'ils lui ont confiée, c'est pas très dangereux pour l'État. Parce que c'est jamais qu'une question de rapport de puissance. L'État est plus puissant que 100 types qui manifestent place de la République un samedi après-midi. Bon. Mais quand vous avez 2000 types, 200 000 types, etc., progressivement, vous voyez que, en fait, l'État s'appauvrit et chacun ayant retiré la puissance qu'il lui avait initialement confiée. Et puis ensuite, ce qui se passe, c'est que l'État est renversé parce que la balance lui est défavorable. Et le nouvel État devient tout aussi légitime que l'était le précédent. Le précédent tenait sa légitimité du seul fait qu'il agrégeait des puissances additionnées. Le deuxième tiendra sa légitimité du même phénomène. Simplement, les puissances se seront agrégées autrement. Et donc l'État, et c'est ici que la liberté réapparaît, à ce seul endroit, chapitre 20, l'État a tout intérêt à laisser aux individus la liberté dont ils ont besoin, parce qu'autrement, les individus risquent de se révolter, risquent de voir leur âme contrariée, ou bien d'être encouragé à l'hypocrisie, c'est-à-dire de tout faire en douce, de désobéir à l'État, de tricher en douce, etc. Donc Spinoza va dire, non seulement la liberté de penser n'est pas défavorable à l'État, mais elle lui est même extrêmement favorable. Parce qu'il n'y a qu'en laissant aux individus la liberté dont ils ont besoin que l'État a établi les conditions favorables à sa propre perpétuation. Donc, maintenant, pourquoi j'en passe par là? Parce que quand on comprend la construction de la deuxième partie de l'éthique, chapitre 16-20, on peut restituer une certaine cohérence. Chapitre 16, au début de 17, il a défini l'état de nature et les hommes comme des puissances. Chacun a la puissance de faire ce qu'il veut. Et l'État, c'est jamais que l'addition des puissances. Et on ne peut jamais donner toute sa puissance, même si je donne à l'État. Vous savez, même l'État le plus totalitaire est obligé d'avoir un service de propagande. Ça montre qu'en définitive, le citoyen reste un peu libre. Donc l'État est quand même obligé de forcer. Il y a quelque chose d'irréductible. Donc chacun va garder un tout petit peu de son pouvoir. Bon. Ensuite, au milieu du chapitre 17, ça s'arrête. Et Spinoza dit, on va maintenant regarder l'histoire des Hébreux parce qu'on va en tirer un certain nombre de leçons relative au rapport entre le politique et le religieux. Il fait ça, chapitre 17, chapitre 18. Chapitre 19, il en tire la leçon principale. Il faut que le pouvoir religieux, le jus kirka sacra, soit confié au pouvoir politique. Et ensuite, un chapitre 20, tout à fait autonome,
où il dit, ceci étant établi, l'État étant le conglomérat des puissances, chacun en conservant une partie pour soi-même, inaliénable, il a tout intérêt à donner aux citoyens la liberté, etc. Donc la problématique de la liberté, elle arrive là, et elle a toute fin. Jamais, à ma connaissance, peut-être que je me trompe, mais même si je me trompe dans le détail du texte, l'accent, à mon semble-t-il, reste assez vrai, jamais la question de l'histoire des Hébreux, ni dans le chapitre 3.5, ni dans les chapitres 17-18, n'est portée sur la question de leur liberté. Elle est portée sur la question... L'accent est porté sur la question de savoir comment on constitue un État avec ses lois en situation de sortie de l'esclavage. Voilà, je crois que c'est maintenant pour extrapoler sur la construction que propose Spinoza. Tu vois, par exemple, ce que tu dis, à savoir, il pourrait se produire un moment où les citoyens étant totalement libres soient en désaccord sur la manière de préserver cette liberté, si bien qu'en quelque sorte, la conséquence serait qu'ils se nuisent à eux-mêmes en faisant une guerre civile qui porterait sur les moyens d'éviter la guerre civile. Bon. Cette question, on peut la lui poser, mais il estime quand même que, d'abord, au bout d'un moment, s'il s'agit que de rapports de puissance, il y a une équation qui s'établit, qui est telle qu'il y a un pouvoir plus fort qu'un pouvoir plus faible. Et ce sera ça, l'État, le pouvoir plus fort, le gagnant et le légitime. Spinoza dit, moi, je fais un peu la même chose que Hobbes, à la différence que chez Hobbes, l'État civil disqualifie l'État de nature. Quand vous avez installé le Léviathan, ben, l'État de nature disparaît. Chez moi, il ne disparaît jamais. Aujourd'hui, l'État est installé, mais dès l'instant que l'État n'est plus capable d'assurer la sécurité des citoyens, ben, qu'est-ce qui se passe? Vous avez des milices armées, etc. L'État se délite progressivement. Ça va prendre 10, 20 ans, 100 ans, 200 ans, 400 ans, l'État finalement finira par disparaître et être remplacé par un autre. Donc le fait donne le droit. Spinoza identifie les deux. Il dit je fais du Hobbes, sauf que chez moi, l'état de nature ne disparaît jamais. C'est toujours une lutte des puissances. Et puis, deuxièmement, quand même, les hommes poursuivent les conditions de leur liberté. Et donc, on peut admettre qu'en toute rigueur, on n'arriverait jamais à un point où la liberté soit l'objet d'une lutte entre hommes libres. Parce qu'il est contradictoire à la liberté de l'homme libre de vouloir les conditions de son impossibilité. Ça, ce serait une thèse de la fin de la partie 4 de l'éthique.
Dernière question. Rappelez-moi votre nom.
Armand Bechbaum. Les raisons pour lesquelles les Parnassim ont prononcé leur RM contre Spinoza semblent peut-être un peu obscures. Si on avance un petit peu dans les explications que vous nous avez brillamment proposées concernant la théorie de Spinoza, on peut aboutir au panthéisme. Et je me demandais si, panthéisme étant, c'est-à-dire une forme de renoncement au monothéisme et à la transcendance, ce ne serait pas là des raisons pour lesquelles on aurait pu prononcer le Réchem.
Oui, mais il faudrait pour ça montrer qu'en 54 ans, Spinoza avait donné déjà sa doctrine philosophique. C'est-à-dire 10 ans avant, près de 10 ans avant la rédaction de l'éthique. Il a pu exprimer un certain scepticisme à l'égard des dogmes, l'éternité de l'âme par exemple. Parce qu'il avait un système panthéiste déjà établi, c'est donné à un homme de 24 ans une doctrine quand même bien solide. Alors, il est vrai qu'on commençait plus jeune avant. Non, mais c'est vrai, j'ai envie de dire, les études étaient plus courtes, mais enfin, on se mettait à son compte plus tôt sur le plan philosophique, donc à 24 ans, il n'était pas rare que les gens aient des doctrines. Mais on n'a pas de traces de textes de Spinoza. Vous savez, son premier texte connu, c'est le traité de la réforme de l'entendement, on le date de 61-62, et il est très incoatif par rapport à l'éthique, par rapport au panthéisme. C'est un texte assez difficile, parce qu'on voit bien que Spinoza se cherche. Il cherche une méthode, on ne comprend pas bien. C'est un texte, pour ma part, je ne comprends pas complètement. Donc, on est sûr qu'en 61, il ne maîtrise pas l'intégralité de son système. Il le maîtrise un tout petit peu mieux en 62, dans un texte qui s'appelle « Le court traité ». Et puis ensuite, il se met à l'éthique, et 10 ans plus tard, il faut y revenir.
Donc, je ne pourrais pas dire qu'en 1956, déjà, il a exprimé la doctrine du panthéisme. Par contre, il a pu exprimer un certain scepticisme à l'égard de certains points de foi qui paraissaient importants. L'immortalité de l'âme, la nécessité de faire des mitzvot, l'élection d'Israël, etc. C'est ce qui nous est rapporté. L'aurait-on excommunié pour ça? Certains soupçonnent même qu'il a cherché sa propre excommunication. Parce qu'après tout, il n'avait qu'à aller dans un village alentour, comme au fond, il va finir par le faire, et puis avoir les convictions qu'il avait librement, tranquillement. N'a-t-il pas un peu cherché son excommunication? C'est la thèse un peu provocatrice de Méchoulan dernièrement. Je ne sais pas, dans le fond. Et puis, même là, pourquoi les Parnassimes auraient prononcé ou auraient demandé de prononcer un cherem sur des thèses théologiques? Ça ne leur ressemblait pas. Ils demandaient en général des excommunications sur la base de problèmes, encore une fois, financier, administratif. Donc tout reste obscur dans cette affaire.
Toute dernière question d'Yvan Segré, et ensuite on prendra le mot de la fin. Là,
juste concernant la fin du traité politique auquel tu as fait allusion à la question de la femme, dire quand même que bon, d'une part, le sexisme est quand même un fait massif de l'histoire de la philosophie et de l'histoire des sociétés dans lesquelles nous vivons. Nous vivons jusqu'à 1945, le droit de vote des femmes, le carnet de chèques, etc. Gustave Lebon, dans les années, la fin du 19e siècle, a des propos sur une sorte de biologisation de l'infériorité de la femme, que donc le texte que tu cites, la fameuse fin du texte inachevé du traité politique, c'est un propos qui s'inscrit dans un contexte historique qui est tout à fait homogène au contexte historique. Que ce qui est par contre hétérogène chez Spinoza, c'est la difficulté de ce texte. Parce que tu dis, Dan, oui, c'est une erreur de logique, parce qu'il tire le droit du fait. Enfin, Spinoza, il a écrit un texte qui s'appelle le Traité de la réforme de l'entendement, où c'est... Il va très loin pour montrer qu'on ne peut pas tirer le droit du fait. Donc, tu as là d'abord une contradiction énorme dans la pensée de Spinoza. Ce qui montre, c'est là que Strauss est intéressant, parce qu'effectivement, ce qui justifie chez Strauss l'idée qu'on va s'intéresser à... On va montrer qu'il y a de l'ésotérique, c'est les contradictions. Quand il y a des contradictions comme celle-là. La deuxième contradiction aussi qui est flagrante, c'est que dans l'éthique... L'amour, chez Spinoza, il dit l'amour entre un homme et une femme, c'est pas simplement de faire des enfants, c'est pas évidemment la forme extérieure, c'est d'aimer la liberté de l'âme, la liberté intérieure de l'autre. Là, on a une définition de l'amour qui est tout à fait aussi encore contradictoire avec la fin du traité politique où il y a ces propos sur l'infériorité de la femme. Donc, ce qui montre qu'il y a une difficulté ici. Autre difficulté, tu as dit dans la démocratie, on n'est pas l'esclave de l'autre. Ben, ça, c'est compliqué aussi, puisqu'historiquement, les démocraties ont été esclavagistes, et que justement, la fin de la démocratie, dans le traité politique, il y a non seulement l'infériorité de la femme, mais aussi des esclaves, qui est un autre problème qui se pose. Que donc, ça pour dire que ces textes chez Spinoza, il y a des contradictions qui posent problème. Et qui nous oblige à avoir une lecture, je dirais, qui ne soit pas naïve de ces difficultés-là. Parce que je pense que la fin du traité politique, par exemple, elle demande à être complètement réinterprétée en sachant que c'est un texte inachevé et que, comme tu le suggérais aussi, je pense, David, c'est qu'on peut aussi... Moi, j'ai pensé un temps que, par exemple, il y avait dans l'éthique, puisque justement, dans l'éthique, il y a cette avancer à la fois de la question du singulier, de l'en dehors de l'État, de l'égalité de l'homme et de la femme, et que c'est dans un traité sur l'État, sur le pouvoir, que réapparaît cette infériorité et que réapparaît ces préjugés. Et que donc il y a l'hypothèse qu'effectivement le contexte, selon qu'il est éthique ou politique, va influencer ce type de question. Et il y a aussi la question de se poser si tout simplement, comme c'est un texte inachevé, un traité politique, on ne sait pas ce qu'il appelle. Et que je pense par exemple que tout ce propos à la fin, il est tout à fait il est tellement contradictoire avec la théorie des trois genres de connaissances chez Spinoza, qui est un leitmotiv de toute son œuvre, que ça laisse présager, ça nous contraint à penser que cette anomalie, parce que c'en est une, elle demande à être, elle appelle une interprétation.
Je suis d'accord sur le fait qu'il y a des contradictions, moi-même je l'ai souligné. Mais qu'il y ait des contradictions, moi je suis d'ailleurs pour toujours les faire voir dans les textes de philosophie. Je ne sais pas si toutes ces contradictions doivent être interprétées en un sens straussien. Elles doivent être interprétées. Déjà, il faut qu'elles soient comprises et élucidées. Il y a des choses qu'on ne comprend pas. Je maintiens qu'efféminer leur âme, etc., moi je ne comprends pas tout à fait. Donc avant d'établir la contradiction, j'essaie de comprendre. Et parfois, je m'arrête parce que je ne comprends pas. Je n'ai pas assez d'éléments, je n'ai pas assez réfléchi, etc. Donc ça, c'est le premier point. Une fois que j'ai assez réfléchi, assez d'éléments et que je crois comprendre, si je vois une contradiction, je peux interpréter. Mais l'interprétation n'est pas forcément straussienne, c'est-à-dire dans le sens d'un message caché, volontairement caché, du fait des situations de persécution. Ça peut aller dans le sens, je te propose une autre herméneutique, heideggerienne. C'est-à-dire histoire de l'être. On peut faire les herméneutiques qu'on veut, mais je suis d'accord avec toi qu'elles doivent être interprétées, pas forcément de façon straussienne. Donc ça, c'est le premier point, mais ça, c'est un point sur lequel, dans le fond, je suis d'accord avec toi. Alors, les points sur lesquels, dans le fond, je ne suis pas d'accord avec toi, tu parles du sexisme, l'histoire de la philosophie est sexiste, etc. Alors là, pas du tout. Platon n'est pas sexiste. Au XVIIe siècle, Descartes tient la princesse Élisabeth pour une meilleure philosophe que Mersenne et que les gens de l'école. Et quand la princesse Élisabeth lui dit « Monsieur Descartes, je suis mélancolique, je suis triste, dites-moi comment lutter contre mes passions, vous comprenez, j'ai les faiblesses de mon sexe. » Autrement dit, je suis une femme. Descartes ne répond pas du tout sur ce terrain-là. Il lui dit « Non, vous n'avez pas les faiblesses de votre sexe, vous avez simplement fait trop de métaphysique et vous êtes une trop bonne métaphysicienne. » Autrement dit, vous êtes meilleure que Mersenne. Et a suivi la pensée de Descartes tout un mouvement qu'on appelle maintenant le féminisme cartésien, qui partent du principe que Descartes, dans la mesure où il a prêté la puissance de penser en chaque homme et chaque femme, le bon sens est la chose du monde la mieux partagée, dans la mesure où il a confié à Élisabeth un très grand nombre de pensées hautement métaphysiques, dans la mesure où il a pensé que l'âme pouvait penser sans le corps, a encouragé un féminisme cartésien. Il y a un auteur là-dessus, il s'appelle Poulain de la Barre, il a écrit en 1660 quelque chose, un texte qui s'appelle « De l'égalité des deux sexes ». C'est radical de l'égalité des deux sexes. Et Descartes est quand même appelé en Suède par la reine Christine, à qui il devait faire ses leçons à 5 heures du matin, ça va le crever le pauvre, mais enfin... Bon, donc je ne suis pas du tout sûr que l'histoire de la philosophie soit traversée par un sexisme. Je termine. Oui, mais je te dis juste que quand tu me dis que l'histoire de la philosophie... Il y a tout un platonisme. Platon n'est pas sexiste. Aristote distingue, oui, l'homme et la femme a des fonctions très singulières, etc. Ce n'est pas le cas de la République de Platon. Donc il faudrait, à mon avis, un petit peu plus, je pense, de prudence dans l'examen de l'histoire de la philosophie. C'est d'autant plus intéressant ici, et ça va dans ton sens maintenant, que Spinoza, qui avait lu Descartes, bien qu'il le connaissait, ne pouvait pas trouver dans le cartésianisme des éléments d'un quelconque sexisme. Donc si sexisme il y a chez Spinoza, il y en a à la fin du traité politique, c'est sans doute un préjugé qui vient, si je puis dire, de lui-même. Voilà, ça c'est le premier point. Mais de la même façon que tu dis... Les démocraties, je ferme la parenthèse assez rapidement, les démocraties ont été esclavagistes, c'est un point aveugle chez Spinoza, etc. Les démocraties n'ont pas été esclavagistes. La démocratie athénienne, elle est esclavagiste parce qu'elle comprend que le citoyen, s'il doit passer ses journées à délibérer dans l'agora, il doit avoir du temps, et par conséquent, il ne peut pas vaquer aux menues occupations logistiques. Donc la démocratie, elle est entière pour les citoyens. Il n'y a pas dans la démocratie, dans l'espace démocratique, des gens qui en sont exclus. Il y a dans l'espace démocratique des citoyens qui sont égaux. Après, il y a des gens qui n'appartiennent pas à cet espace démocratique. Donc je ne crois pas que la démocratie soit esclavagiste. Et je ne crois pas qu'elle le soit par nature, en tout cas. Même si, historiquement, il y a pu y avoir des formes... Tu parles de l'amour. Alors, moi, je ne vois pas de contradiction... sur cette question, tu dis l'amour dans l'éthique n'est pensé que comme l'amour intellectuel de Dieu. Vous savez, à la fin de l'éthique, qu'est-ce que c'est que l'amour? C'est aimer Dieu en pensant le fait que toute chose, chaque chose singulière, vient de Dieu, émane de Dieu. Bon, c'est une certaine forme d'amour qui, au fond, libère l'âme. parce qu'on arrête de pleurer quand on comprend que la bouteille, elle est aussi une forme d'émanation de Dieu. Bon, c'est une liberté. Mais Spinoza nous a aussi dit dans l'éthique que l'amour sexuel, l'amour incarné, l'amour entre un homme et une femme, est un esclavage. C'est-à-dire que Spinoza nous dit l'amour, en gros, c'est une passion joyeuse. Qu'est-ce que c'est qu'une passion joyeuse? Il oppose les passions tristes et les passions joyeuses. Une passion, c'est quand votre corps est affecté. Ce que vous éprouvez quand votre corps est affecté. Maintenant, vous pouvez être affecté de deux façons. Une façon négative qui diminue votre puissance d'agir. Vous allez dans le métro, il y a beaucoup de monde, vous ne respirez pas, vous vous étouffez, vous passez un mauvais moment. C'est une passion triste. Et en gros, la jalousie, la haine, etc., vous rabougrissent et vous empêchent d'avancer. Ça diminue votre puissance d'agir. C'est toujours une passion. Puis il y a des passions joyeuses, vous faites de belles rencontres. Ce sont des passions parce que vous êtes passif, c'est les rencontres qui veulent ça. Mais ça vous remplit de joie, vous sortez, vous avez plein de belles idées, vous avez une puissance d'agir, c'est formidable. L'amour, on pourrait dire que c'est une puissance d'agir accrue, par conséquent c'est une passion joyeuse. Mais il ajoute, l'amour d'un homme pour une femme a deux inconvénients. Le premier, c'est que quand l'homme aime la femme, il y a toujours un tiers. Parce que l'homme qui aime la femme va montrer sa femme qu'il aime, dont il est fier, à un autre. Et qu'est-ce qu'il veut, l'homme qui aime la femme? Il veut que l'autre admire la même femme, évidemment. Quand vous avez un objet que vous aimez, vous le montrez pour que l'autre l'admire. Mais attention, vous voulez que l'autre l'aime, mais pas au même point que vous et pas au point de vous concurrencer. Donc, cela même qui vous fait aimer l'autre, parce que vous allez lui montrer votre femme, vous fait le haïr. Vous montrez votre femme et vous surveillez en même temps la réaction de l'autre. Mais si tu n'étais pas si fier, tu ne la montrerais pas. Oui, mais en même temps, voilà les logiques de l'imagination dans lesquelles on est pris. Et deuxièmement, nous dit Spinoza, nos passions doivent travailler à la conservation globale de notre corps. Autrement dit, les passions joyeuses, c'est la lecture, l'écriture, ça c'est pour l'intellect, c'est formidable. Mais le sport aussi. Bon. Et si vous travaillez, quand vous faites du sport, qu'un seul muscle, bah, vous ressemblez à rien. Le corps est complètement désarticulé. Or, nous dit-il, l'amour sexuel, c'est une augmentation de la puissance d'agir du corps localisée en un endroit. Bon. Par conséquent, ça déséquilibre le corps. Donc oui, Spinoza est très critique à l'égard de l'amour homme-femme. Et je ne vois pas là de contradiction, ni avec le fait que l'amour ultime... Tu as raison, l'amour ultime, c'est la souveraine liberté... Non, mais tu dis l'amour, c'est la liberté de l'âme. Oui. Oui. Mais justement, c'est...
Ce n'est pas simplement...
Ah oui, d'accord, tu pensais à ça, je pensais à la partie 5. J'avais pas ça en tête.
C'est étonnant, ils disent, en gros, si tu dois aimer dans ta femme, c'est sa liberté intérieure. C'est extraordinaire, cette définition.
Oui.
Évidemment.
Non, mais ça...
Juste
en prenant
un champ total, avec l'idée que ce sera un préjugé propre de Spinoza.
Non, pas du tout. Je crois pas du tout. Je crois pas du tout. Je crois qu'entre deux sujets chez Spinoza, ce qu'on doit cultiver, c'est la liberté de l'autre, etc. Ça rentre parfaitement dans la systématique générale des rapports humains chez Spinoza. Mais je suis d'accord, enfin, je suis d'accord dans l'ensemble. Ben oui, non, mais moi, le premier, j'ai dit que cette fin de traité théologico-politique, du traité politique, était problématique. Moi, le premier. Mais cette contradiction, je suis parfaitement d'accord, il y a une contradiction. Ce texte n'est pas soluble dans le reste. C'est très clair, je l'ai dit tout à l'heure. Ben, il y en a plein des contradictions, enfin, c'est pas, tu vois. Mais là, je suis parfaitement d'accord. Si c'était ça, je t'accorde parfaitement que c'est un texte très, très difficile. Et déjà, vous le disiez, que Spinoza, qui globalement n'a pas peur de lutter contre les préjugés, entérine ici un préjugé commun de ça, de je ne sais pas quoi d'ailleurs, classe sociale, époque, je dirais non, puisqu'il y avait à la même époque des gens qui n'avaient pas les mêmes préjugés et qui étaient capables d'être libres sur ces questions. Bon, en tout cas, qu'il entérine des platitudes pas très belles, ça doit nous surprendre.
Et sur la base d'un raisonnement qui contredit complètement ça.
Absolument, mais ça effectivement, c'est
une anomalie.
C'est une anomalie. Ben, alors après, comment ça s'interprète, je ne sais pas. Faiblesse d'un homme, où allait le traité politique, ça, c'est inachevé.
Là, ça
franchement, je ne sais pas. De toute façon, c'est inachevé. Mais en tout cas, c'est peut-être mon dernier mot avant de laisser la parole au Rav, ce ne sera pas la seule faiblesse de Spinoza.
Un grand, grand, grand merci à Dan et à tout le monde pour cette interview. Très, très riche. Prochaine séance, on se retrouve.